Retour à Watt. En passant le portail, Dora ressent instantanément combien ce vieux manoir lui a manqué. Depuis ses 10 ans, elle n'a pas foulé les terres de ses premières vacances. Aujourd'hui, elle a enfin entrepris ce long voyage jusqu'en Bretagne et navigué vers l'île de Watt, à la demande de sa tante qui a besoin qu'une personne de confiance vienne fermer sa demeure avant l'hiver. Quelques pas dans le parc suffisent pour qu'elle se sente à nouveau chez elle, parmi les pins maritimes qui encerclent la maison de granit. Ici, le temps semble arrêté. Pour Dora, Watt a toujours eu ce parfum de bout du monde. Elle s'y sent profondément ailleurs, loin de tout, hors de l'espace et du temps tel qu'il règne sur le continent. Dora cherche tout d'abord la clé cachée dans la boîte de fer blanc au pied des hortensias. Elle se dirige vers la porte d'ogive qui est à peine assez haute pour laisser passer un adulte de taille moyenne. On pénètre par elle dans le temps perdu. Celui de l'enfance, des étés d'autrefois, des journées à la mer, des feux de bois. L'odeur humide des murs chaulés plonge Dora dans ses souvenirs. Elle retrouve dans cette grande pièce la haute cheminée de pierre, l'escalier de granit qui tourne jusqu'au grenier et les sentiments diffus de la petite fille qu'elle a été. Demain, elle commencera à ordonner la maison et à nettoyer le jardin avant qu'il ne s'endorme sous les frimas de l'hiver. Mais pour l'instant, Dora décide de préparer son ancienne chambre pour la nuit. Elle a toujours aimé le vieux lit clos qui s'y trouve. Il lui apparaissait comme un vaisseau, un château fort. Ce lit étant fermé de tous côtés par des panneaux de bois, on y pénètre en ouvrant une porte à charnière. À l'intérieur, les planches disjointes par les années laissent filtrer un peu de lumière. En s'installant, Dora se remémore ce rituel immuable. Chaque soir, avant de l'aborder, sa tante soulevait d'un large geste le drap de lin qui retombait alors lentement sur l'enfant blotti, l'ensevelissant tout entière dans un souffle léger qui sentait bon le linge séché au soleil. Où s'était enfui ce souvenir? Depuis son arrivée au manoir, des bribes d'enfance affluent comme autant d'instants volatiles. Dora voudrait les capturer, mais ces moments oubliés sont faits de la matière des rêves et s'évanouissent vite, tels des papillons que l'on poursuit avec un filet. Dehors, les vents du golfe du Morbihan font grincer les branches des arbres et les gonds des persiennes. Dora tend l'oreille vers cette étrange berceuse. La solitude offre pour compagnie tout ce qui habite le silence. Il lui faut peu de temps pour s'endormir. Au matin, l'heure bretonne sonne au clocher du village. Dora décide de consacrer cette première journée au jardin. À Watt, l'automne encore jeune est plein de soleil. Les lueurs du ciel se couvrent de nuages légers. Les camélias au pied du colombier sont toujours en fleurs. Dora choisit de ne pas les tailler et de s'occuper plutôt des rhododendrons, déjà endormis pour l'hiver. Leur buisson surplombe une terre jonchée de pétales. Le magnolia a aussi relâché une à une ses belles corolles roses de l'été disparu. Le vent calmé, les fleurs tombent encore. Les ramasser sera l'autre tâche de la matinée. Il faudra ensuite ratisser les allées. En saisissant le râteau éventail, Dora se souvient avec quelle application elle traçait autrefois dans l'allée des labyrinthes en spirale. Il lui évoquait les mystérieuses gravures du cairn de Gavrinis qu'elle avait découvert en voyage scolaire. Par jeu, elle orne à nouveau l'étendue minérale de ses dessins mystérieux. Le gravier ratissé en profond sillon lui rappelle aujourd'hui des jardins zen bien plus lointains. À la fin du jour, le parc paraît comme assagi. Il ne reste qu'à brûler un tas de feuilles. Dora prend plaisir à regarder partir en cendres le fruit de sa journée de travail et se réchauffe dans les parfums mêlés d'iode et de fumée. Il lui reste le temps d'aller saluer la mer avant le crépuscule. Le soleil du soir dore la lande déjà ambrée par les ajoncs d'hiver refleuris. Au loin, la bruyère illumine les crêtes de sa floraison violette. Les cris des mouettes, des grèbes huppées et des cormorans annoncent la dune toute proche. Dora la découvre encore parsemée de chardons bleus, immortelles et lys de mer, et choisit de s'y aventurer pieds nus. Elle aime tant la caresse du sable frais qui délace ses pieds à chaque pas. Sur la plage, elle se laisse envahir par le bruit régulier des vagues. Enfant, sa tante l'incitait à vérifier si le rythme de son propre cœur s'harmonisait avec celui de l'océan. C'est ainsi qu'on sait si on a le cœur celte. Elle devinait alors, en posant la main sur sa poitrine, l'harmonie secrète qui existe entre l'oscillation du cœur qui bat et les mouvements de flux et de reflux de la mer. Le dimanche, la pluie décide Dora à dépoussiérer l'intérieur du manoir. Pièce après pièce, elle cire les bois d'if des armoires séculaires, ordonne les porcelaines et poussette les minutieux rideaux de dentelle aux crochets suspendus aux fenêtres. Accompagnée dans sa tâche par le tic-tac monotone de l'horloge familiale, Dora accomplit chaque geste avec une certaine lenteur. L'esprit toujours absorbé dans une rêverie où le passé et le présent se superposent. Elle essaie de saisir chaque souvenir qui émerge. Peu à peu, le rez-de-chaussée est rangé, puis le premier étage. Elle grimpe ensuite au grenier. Là-haut, en poussant le lourd volet de bois de la lucarne, elle entrevoit dans une lumière pâle où danse la poussière une collection d'objets de toutes sortes que les années ont amassés. Sa tante lui a donné la liberté de les trier et de conserver seulement ce qui lui paraît avoir une certaine valeur. Elle pourra remettre au brocanteur du village ce dont elle juge bon de se débarrasser. Intuitivement, Dora commence à tout classer. Journaux et vêtements, jouets et chapeaux. De toute évidence, de nombreuses choses devenues inutiles ou encombrantes peuvent désormais être reléguées aux oubliettes. Elle entrepose ce dont elle ne veut plus dans des cartons qui paraissent prévus à cet effet. Là encore, la mémoire lui revient par étincelles. En ouvrant une malle en osier, elle découvre notamment une petite clé dorée. Le minuscule objet lui évoque confusément quelque chose. Elle ferme les paupières pour mieux se rappeler, mais nulle image ne survient. Tout au fond de la malle, caché par des étoiles élimées, se trouve un coffret. En l'ouvrant, Dora croit rêver. À deux mains, elle tient sa boîte à musique adorée, qu'elle avait pourtant jusqu'ici totalement oubliée. Dora présente la petite clé face à la serrure du jouet ouvragé, puis soulève son couvercle. Au centre, une ballerine en tenue dorée se met à tourner, et le mécanisme joue une ritournelle nostalgique. Ces quelques notes transportent Dora au plus profond d'elle-même. Il lui semble qu'elle bascule dans l'autre monde, que le passé et le présent fusionnent. Une illusion peut-elle exister? Elle a désormais franchi le seuil des souvenirs et voit distinctement chacun d'eux virevolter devant ses yeux, alors qu'elle se tient immobile, hypnotisée par la danse de la poupée au tutu d'or.